Lentement, traînant les pieds, Madame Théodore dut revenir rue Marcadet, où logeaient les Toussaints. Du côté de son frère, non plus, elle n'espérait pas grand-chose, car elle savait dans quelle malchance et dans quel embarras le ménage était tombé. À 50 ans, au dernier automne, Toussaint avait eu une attaque, un commencement de paralysie, qui, pendant près de 5 mois, venait de le clouer sur une chaise. Jusque-là, il s'était vaillamment conduit, bon travailleur, ne buvant pas, élevant ses 3 enfants, une fille mariée à un menuisier, partie au Havre avec son mari, un garçon, mort soldat au Tonkin, un autre garçon. Charles, revenu du service, est redevenu mécanicien. Mais 5 mois de maladie avaient épuisé le peu d'argent placé à la caisse d'épargne, et Toussaint, remis à peu près sur ses jambes, en était à recommencer sa vie, sans un sou, comme s'il avait eu 20 ans. Madame Théodore trouva sa belle-sœur, Madame Toussaint, seule dans l'unique pièce, tenue très proprement, où vivait le ménage. Et il n'y avait à côté qu'un étroit cabinet dans lequel couchait Charles. Madame Toussaint était une grosse femme que l'embonpoint envahissait, malgré tout, malgré le tracas et le jeûne. Elle avait une figure ronde et noyée, éclairée de petits yeux vifs, très brave femme, un peu commère, friande aussi, n'ayant d'autre défaut que d'adorer faire de la bonne cuisine. Tout de suite, avant que l'autre ouvrît la bouche, elle comprit le but de la visite. « Ma chère, vous arrivez mal, nous sommes à sec. C'est avant-hier seulement que Toussaint a pu retourner à l'usine, et il faudra bien dès ce soir qu'il demande une avance. » Elle la regardait, blessée par son état d'abandon, méfiante, peu sympathique. « Et Salva, il ne fait donc toujours rien ?» Sans doute, Madame Théodore prévoyait la question, car elle mentit tranquillement. « Il n'est pas à Paris. Un ami l'a emmené pour du travail du côté de la Belgique, et j'attends qu'il nous envoie quelque chose. » Mais Madame Toussaint gardait sa défiance. « Ah, tant mieux qu'il ne soit pas à Paris, parce que nous avions songé à lui, avec toutes ses affaires de bombes. Nous nous disions qu'il était assez fou pour se fourrer là-dedans. » L'autre ne sourcilla pas. Si elle se doutait de quelque chose, elle le gardait pour elle. « Eh bien, et vous, ma chère, vous ne trouvez donc pas à vous occuper ?»« Oh, moi, comment voulez-vous que je fasse avec mes pauvres yeux? La couture n'est plus possible. » Ça, c'est vrai, une ouvrière, ça se rouille. Ainsi, moi, quand Toussaint a été cloué, là, j'ai voulu me remettre à la lingerie, mon ancien métier. Ah, bien, oui, je gâchais tout, je n'avançais pas. Il n'y a encore que les ménages qu'on peut toujours faire. Pourquoi ne faites-vous pas des ménages ? J'en cherche, je n'en trouve pas. » Peu à peu, pourtant, Madame Toussaint revenait à son bon cœur, s'attendrissait devant cet air de grande misère. Et elle la fit asseoir. Elle lui dit que, si Toussaint rentrait avec une avance, elle lui donnerait quelque chose. Puis, elle entama des histoires, succombant à son péché de bavardage, dès qu'il y avait là quelqu'un pour l'écouter. Mais l'histoire inévitable où elle retombait, qui la passionnait, qu'elle recommençait sans fin, était celle de son fils Charles, de la bonne du marchand de vin d'en face avec laquelle il avait eu la bêtise de coucher, et de l'enfant qu'il venait d'en avoir. Autrefois, Charles, avant de partir pour le service, était l'ouvrier le plus laborieux, le plus tendre, rapportant toute sa paix. Certes, il restait travailleur et bon garçon, mais tout de même, le service militaire, en le dégourdissant, l'avait dégoûté un peu du travail. Ce n'était pas qu'il le regrettât, car il parlait de la caserne comme d'une prison, tout en étant aussi crâne qu'un autre. Seulement, l'outil lui avait semblé lourd lorsqu'il s'était agi de le reprendre. Alors, ma chère, Charles a beau être toujours gentil, il ne peut plus rien faire pour nous. Je le savais pas pressé de se marier à cause de la charge. Avec cela, très prudent avec les filles. Et il a fallu cette bêtise d'un moment, cette Eugénie qui le servait lorsqu'il entrait boire un verre en face. Naturellement que ce n'était pas pour l'épouser, bien qu'il lui ait porté des oranges lorsqu'elle est allée accoucher à l'hôpital. Une sale traînée qui a déjà disparu avec un autre homme. Seulement, le bébé reste. Charles l'a pris pour lui, l'a envoyé en nourrice et il paie les mois. Une vraie ruine, des frais qui n'en finissent plus. Enfin, tous les malheurs nous sont tombés à la fois sur la tête. » Madame Toussaint parlait ainsi depuis une demi-heure, lorsqu'elle s'interrompit brusquement en voyant Madame Théodore toute pâlie par l'attente. « Vous vous impatientez. C'est que Toussaint ne rentrera pas de sitôt. Voulez-vous que nous allions jusqu'à l'usine? Je saurai bien s'il doit rapporter quelque chose. » Elles se décidèrent à descendre. Elles s'arrêtèrent encore, près d'un quart d'heure, au bas de l'escalier, pour causer avec une voisine qui venait de perdre un enfant. Et elles sortaient enfin de la maison lorsqu'un appel les arrêta. « Maman! Maman !» C'était la petite Céline, ravie, chaussée de souliers neufs, mordant dans une brioche. « Maman, c'est monsieur l'abbé de l'autre jour qui veut te parler. Vois donc, il m'a acheté tout ça !» Madame Théodore, en voyant les souliers et la brioche, avait compris. Et elle se mit à trembler, à bégayer des remerciements, lorsque Pierre, qui marchait derrière la petite, l'aborda. Vivement, Madame Toussaint s'était approchée, se présentant elle-même, mais ne demandant rien, contente au contraire de l'aubaine pour sa belle-sœur, plus malheureuse qu'elle. Quand elle vit le prêtre glisser 10 francs dans la main de celle-ci, elle lui expliqua qu'elle aurait bien volontiers prêté quelque chose, mais qu'elle ne le pouvait pas. Et elle entama les histoires de l'attaque de Toussaint et de la malchance de Charles. « Dis donc, maman, interrompit Céline, l'usine où papa travaillait, c'est bien là, dans la rue. Monsieur l'abbé va y faire une commission. » « L'usine Grand Didier, reprit Madame Toussaint. « Justement, nous y allions, nous pouvons bien y conduire monsieur l'abbé. » C'était à 100 pas. Pendant que les deux femmes et l'enfant l'accompagnaient, Pierre ralentit sa marche, désireux de faire causer Madame Théodore sur Salva, ainsi qu'il se l'était promis. Mais tout de suite, elle devint prudente. Elle ne l'avait pas revu, il devait être en Belgique avec un camarade pour du travail. Et le prêtre crut sentir que Salva n'avait point osé revenir rue des Saules, dans l'ébranlement de son attentat où tout sombrait. Le passé de travail et d'espoir, le présent avec l'enfant et la femme. « Tenez, monsieur l'abbé, voici l'usine, dit Madame Toussaint. Ma belle-sœur ne va plus avoir à attendre, puisque vous avez eu la bonté de venir à son aide. Merci bien pour elle et pour nous. » Madame Théodore et Céline aussi remerciaient, toutes les deux sur le trottoir avec Madame Toussaint, au milieu de la bousculade des passants, dans l'éternelle boue grasse de ce quartier populeux, s'attardant à regarder Pierre entrer et causant encore, et disant qu'il y avait tout de même des prêtres bien aimables. L'usine Grand Didier occupait là tout un vaste terrain. Sur la rue, il n'y avait qu'un bâtiment de briques, aux étroites fenêtres, flanqué d'un vaste portail, d'où l'on voyait la cour profonde. Puis c'était une succession de corps de logis, d'ateliers, de hangars intérieurs, des toitures sans nombre, que dominaient les deux hautes cheminées des générateurs. Dès l'entrée, on entendait le ronflement et la trépidation des machines, la sourde clameur du travail, toute une activité chaude, remuante, assourdissante, dont le sol lui-même était ébranlé. Des eaux noircies ruisselaient, des jets de vapeur blanche sur un toit sortaient par un mince tuyau en un souffle strident et régulier, tel que la respiration même de l'énorme ruche en besogne. Maintenant, l'usine fabriquait surtout des bicyclettes. Lorsque Grand Didier, qui sortait de l'école des arts et métiers de Châlons, l'avait prise, elle périclitait, mal gérée, s'attardant à la fabrication des petits moteurs à l'aide d'un outillage vieilli. Devinant l'avenir, il s'était fait commanditer par son frère aîné, un des administrateurs des grands magasins du bon marché, en s'engageant à lui fournir des bicyclettes excellentes à 150 francs. Et toute une affaire considérable était en train. Le Bon Marché lançait la machine populaire, la Lisette, le cyclisme pour tous, comme disaient les annonces. Mais Grand Didier luttait encore, n'avait pas victoire gagnée, car l'outillage neuf venait de l'endetter terriblement. Chaque mois, c'était un effort, un perfectionnement, une simplification, réalisant une économie. Il était sans cesse en éveil, et il rêvait maintenant de se remettre au petit moteur, flairant de nouveau le prochain triomphe des voitures automobiles. Pierre, qui avait demandé si M. Thomas Froment était là, fut conduit par un vieil ouvrier dans un petit atelier de planches, et il y trouva le jeune homme en tenue de travail, vêtu du bourgeron du mécanicien, les mains noires de limaille. Il ajustait une pièce. Personne n'aurait soupçonné chez ce colosse de 23 ans, si attentif et si vaillant à la dure besogne, le brillant élève du lycée Condorcet, où les trois frères avaient laissé le nom de Froment célèbre dans les fastes du palmarès. Mais lui, en serviteur étroit de son père, ne voulait être que le bras qui forge, le travail manuel qui réalise. Et il était un sobre, un patient, un muet, et il n'avait pas même de maîtresse, disant que lorsqu'il rencontrerait une bonne femme, plus tard, il l'épouserait. Dès qu'il aperçut Pierre, il frémit d'inquiétude, lâcha tout, s'élança. « Père ne va pas plus mal !» Non, non, il a lu dans les journaux cette histoire du poinçon trouvé rue Godot de Mauroy, et il s'est inquiété en songeant qu'une perquisition de police pouvait avoir lieu ici. Rassuré, Thomas eut un sourire. Dites-lui qu'il dorme tranquille. D'abord, malheureusement, je ne tiens pas notre petit moteur tel que je le veux. Puis, il n'est pas encore monté, j'ai gardé des pièces chez nous. Personne ici ne sait même au juste ce que j'y viens faire. La police peut perquisitionner, elle ne verra rien. Notre secret ne court aucun risque. » Pierre promit de répéter à Guillaume ses paroles textuelles afin de lui enlever toute crainte. Ensuite, lorsqu'il essaya de sonder Thomas pour savoir où en étaient les choses et ce qu'on pensait à l'usine de la trouvaille du poinçon, et si Salvat commençait à y être soupçonné, il le trouva muet de nouveau, répondant par des monosyllabes. La police n'était donc pas venue? Non. Mais les ouvriers avaient bien prononcé le nom de Salvat. Oui, naturellement, à cause de ses idées anarchistes, connues de tous. Et Grand Didier, le patron, qu'avait-il dit à son retour de chez le juge d'instruction? Il ne savait pas. Il ne l'avait pas revu. Tenez, le voici. Le pauvre homme, sa femme a dû avoir une crise encore ce matin. » C'était une histoire lamentable que Pierre tenait déjà de Guillaume. Grand Didier, qui avait épousé par amour une jeune fille d'une grande beauté, la gardait folle depuis 5 ans, à la suite de la perte d'un petit garçon et d'une fièvre puerpérale. Il n'avait pu se résigner à la mettre dans une maison de santé. Il vivait enfermé avec elle au fond d'un pavillon, dont les fenêtres, sur la cour de l'usine, restaient toujours closes. Jamais on ne la voyait, jamais il ne parlait d'elle à personne. On disait qu'elle était comme une enfant, sans méchanceté aucune, très douce et très triste, belle encore, avec une royale chevelure blonde. Mais parfois, elle avait des crises terribles, et il devait lutter, la tenir pendant des heures entre ses deux bras pour qu'elle ne se brisât pas le crâne contre les murs. On entendait des cris affreux, puis tout retombait à un silence de mort. Justement, Grand Didier, un bel homme de 40 ans, à la figure énergique, avec de grosses moustaches brunes, les cheveux en brosse, les yeux clairs, entra dans le petit atelier où Thomas travaillait. Il aimait beaucoup ce dernier, dont il avait facilité chez lui l'apprentissage en le traitant comme un fils. Il le laissait revenir à sa guise, mettait à sa disposition son outillage. Et, tout en le sachant occupé de la question des petits moteurs, qui le passionnait lui-même, il montrait la plus grande discrétion. Il attendait, sans le questionner. Thomas présenta le prêtre. « Mon oncle, monsieur l'abbé Pierre Froment, qui est venu me serrer la main. » Il y eut un échange de politesse. Puis Grand Didier, la face voilée de cette tristesse qui le faisait passer pour sévère et dur, voulut réagir, se montrer gai. « Dites donc, Thomas, je ne vous ai pas compté ma séance avec le juge d'instruction. Je suis bien noté, sans cela nous aurions eu ici tous les argousins de la préfecture. » Il voulait que je lui explicasse la présence, rue Godot de Mauroy, de ce poinçon marqué à mon chiffre. Et j'ai bien vu que son idée était que l'auteur de l'attentat avait dû travailler ici. Moi, tout de suite, j'ai pensé à Salva. Mais je ne dénonce personne. Il a mon livre d'embauche. J'ai répondu simplement sur Salva qu'il était resté près de 3 mois à l'usine l'automne dernier, puis qu'il avait disparu. Qu'il le cherche. Ah, ce juge, un petit homme blond, très soigné et l'air mondain, qui frétille dans cette affaire avec des yeux de chat. « N'est-ce pas, monsieur Amadieu ?» demanda Pierre. « Oui, c'est cela même. Un homme certainement ravi du cadeau que ces bandits d'anarchistes lui ont fait avec leur attentat. » Angoissé, le prêtre écoutait. C'était ce que redoutait son frère, la bonne piste trouvée enfin, le premier fil conducteur. Et il regarda Thomas pour voir s'il s'inquiétait lui aussi. Mais, soit que le jeune homme ignorât le lien qui nouait Salva à son père, soit qu'il eût sur lui-même un grand empire, il souriait simplement du portrait de ce juge. Alors, comme Grand Didier était allé regarder la pièce que terminait Thomas, et qu'ils en parlaient longuement ensemble, Pierre s'approcha d'une porte ouverte qui donnait sur un vaste atelier en longueur où ronflaient des tours, où des machines à percer retombaient avec les coups secs et rythmiques de leurs balanciers. Les courroies filaient d'un vol continu, toute une activité chaude s'agitait dans l'odeur moite de la vapeur. Un peuple d'ouvriers, suant, noirs des poussières épandues, y peinait encore. Mais c'était pourtant la fin de la journée, le dernier effort de la tâche. Et 3 ouvriers étant venus à une fontaine près de lui pour se laver les mains, le prêtre les entendit qui causait. Surtout, il s'intéressa, dès qu'il entendit l'un d'eux, un grand rouge, en nommer un autre Toussaint et le troisième, Charles. C'était le père et le fils. Toussaint, un homme gros, carré des épaules, les bras noueux, ne paraissait avoir ses 50 ans que lorsqu'on s'arrêtait à la ruine de sa face ronde et cuite, crevassée, mangée par le travail, hérissée d'une barbe grisonnante qu'il ne faisait plus que le dimanche. Et son bras droit seul, déjà touché par la paralysie, s'attardait en des gestes ralentis. Vivant portrait de son père, Charles, le visage plein, barré d'épaisses moustaches noires, était dans toute la force de ses 26 ans, avec de beaux muscles qui saillaient sous la peau blanche. Eux aussi parlaient de la bombe de l'hôtel du Villard et du poinçon qu'on avait trouvé, et de Salva que tous maintenant soupçonnaient. « Il n'y a qu'un bandit pour faire un coup pareil !» dit Toussaint. « Leur anarchie, ça me révolte, je n'en suis pas. Mais tout de même, que les bourgeois s'arrangent si on les fait sauter. Ça les regarde, ils l'ont voulu. » Et il y avait, au fond de cette indifférence, tout un long passé de misère et d'injustice. Le vieil homme, las de lutter, n'espérant plus en rien, prêt à laisser crouler ce monde où la faim menaçait sa vieillesse de travailleur fourbu. Vous savez, moi, reprit Charles, je les ai entendus qui causaient, les anarchistes. Et vrai, ils disent des choses très justes, très raisonnables. Enfin, père, voilà que tu travailles depuis plus de 30 ans. Est-ce que ce n'est pas une abomination ce qui vient de t'arriver? La menace de crever comme un vieux cheval qu'on abat à la moindre maladie? Hé, dame, ça me fait songer à moi. Je me dis que ce ne sera pas drôle de finir comme ça. Que le tonnerre de Dieu m'emporte, on est tenté d'en être de leur grand chambardement. si ça doit faire le bonheur de tout le monde. » Certes, il n'avait pas la flamme, et il n'en venait là que dans l'impatience de mieux vivre, déclassé déjà par la caserne, ayant rapporté du service obligatoire une idée d'égalité, de lutte pour la vie, un besoin de se faire sa légitime part de jouissance. C'était le pas fatal fait d'une génération à une autre, le père dupé dans son espoir de république fraternelle, devenu sceptique et méprisant, le fils en train d'aller à la foi nouvelle, acquis peu à peu aux violences après l'apparente faillite de la liberté. Mais, comme le grand rouge, un brave homme, se fâchait, criant que si Salva avait fait le coup, il fallait le prendre et l'envoyer à la guillotine tout de suite sans même le juger, Toussaint finit par être de son avis. « Oui, oui, il a beau avoir épousé une de mes sœurs, je l'abandonne. Ça m'étonnerait pourtant de sa part, car vous savez qu'il n'est pas méchant, il ne tuerait pas une mouche. »« Mais que voulez-vous ? » fit remarquer Charles. « Quand on vous pousse à bout, on devient enragé. » Tous les trois s'étaient lavés à grande eau, et Toussaint, qui venait d'apercevoir le patron, s'attarda, attendit pour lui demander une avance. Justement, grand Didier, après avoir serré cordialement la main de Pierre, s'avança de lui-même au-devant du vieil ouvrier, qu'il estimait. Il l'écouta, se décida à lui donner un mot sur une carte pour le caissier. Mais il était très réfractaire au système des avances. Les ouvriers ne l'aimaient point, le disaient rude, malgré sa réelle bonté, parce qu'ils croyaient devoir énergiquement défendre sa situation de patron, sans pouvoir céder en rien, sous peine de ruine. Quand la concurrence était si âpre, quand le système capitaliste nécessitait une si terrible lutte de toutes les heures, comment admettre les réclamations du salariat, même légitimes? Et Pierre, en partant, après s'être de nouveau entendu avec Thomas sur les réponses qu'il rapportait à son frère, eut une brusque pitié lorsqu'il vit dans la cour Grand Didier sa tournée faite retourner au pavillon clos où l'attendait l'affreuse tristesse du drame de son cœur. Quelle secrète et inguérissable désespérance cet homme dans le combat de la vie, défendant sa fortune, fondant sa maison au milieu de la furieuse bataille entre le capital et le salariat, et ne trouvant à son foyer pour le repos du soir que l'angoisse de sa femme folle, sa femme adorée, redevenue enfant morte à l'amour. Même les jours où il triomphait, il avait en rentrant cette irrémédiable défaite. En était-il donc un plus malheureux, plus à plaindre, parmi les pauvres qui mouraient de faim, parmi les tristes ouvriers, les vaincus du travail qui l'exécraient et l'enviaient? Lorsque Pierre se retrouva dans la rue, il eut l'étonnement de voir encore là les deux femmes, Madame Toussaint et Madame Théodore, avec la petite Céline. Les pieds dans la boue, tels que des épaves battues par l'éternel flot des passants, elles n'avaient pas bougé, elles causaient sans fin, bavardes et dolentes, endormant leur misère sous ce déluge de commérages. Et quand, suivi de Charles, Toussaint sortit, heureux de l'avance obtenue, il les trouva là, toujours. Il dit à Madame Théodore l'histoire du poinçon, l'idée qu'il avait, avec tous les camarades, que Salva pouvait bien avoir fait le coup. Mais celle-ci, devenue très pâle, se récria, sans laisser deviner ce qu'elle savait, ce qu'elle pensait au fond. « Je vous répète que je ne l'ai plus revu. Pour sûr, il doit être en Belgique. Ah, oui, une bombe. Vous dites vous-même qu'il est trop bon et qu'il ne tuerait pas une mouche. » En revenant à Neuilly, dans le tramway, Pierre tomba en une songerie profonde. Il avait encore en lui l'agitation ouvrière du quartier, le bourdonnement de l'usine, toute cette activité débordante de ruches. Et, pour la première fois, sous l'empire du tourment où il était, la nécessité du travail lui apparaissait, une fatalité qui se révélait aussi comme une santé et une force. Là, il découvrait enfin un terrain solide, l'effort qui entretient et qui sauve. Était-ce donc la première lueur d'une foi nouvelle? Mais quelle dérision! Le travail incertain, sans espoir, le travail aboutissant à l'éternelle injustice. Et la misère alors guettant toujours l'ouvrier, l'étranglant au moindre chômage, le jetant à la borne comme un chien crevé, dès que venait la vieillesse. À Neuilly, près du lit de Guillaume, Pierre trouva Berthe Roy, qui venait de le panser. Et le vieux savant ne semblait pas rassuré encore sur les complications que pouvait amener la blessure. « Aussi, vous ne vous tenez pas tranquille. Je vous trouve toujours dans une émotion, dans une fièvre désastreuse. Il faut vous calmer, mon cher enfant. Rien ne doit vous tourmenter, que diable !» Puis, quelques minutes après, comme il partait, il dit avec son bon sourire « Vous savez qu'on est venu pour m'interviewer à propos de cette bombe de la rue Godot de Mauroy. Ces journalistes, ils s'imaginent qu'on sait tout. J'ai répondu à celui-là qu'il serait bien aimable de me renseigner lui-même sur la poudre employée. Et à ce propos, je fais demain à mon laboratoire une leçon sur les explosifs. Il y aura quelques personnes. Venez donc, Pierre, vous en rendrez compte à Guillaume, ça l'intéressera. » Pierre, sur un regard de son frère, accepta. Puis, lorsqu'ils furent tous deux seuls et qu'il lui eut conté son après-midi, Salva soupçonné, le juge d'instruction mis sur la bonne piste, Guillaume fut repris d'une fièvre intense, la tête dans l'oreiller, les yeux clos, bégayant en une sorte de cauchemar. « Allons, c'est la fin !» Salva arrêté, Salva questionné. « Ah, tant de travail, tant d'espoir qui croule !»